Marcel, c'était le journal de Mathieu Auger.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Nous sommes vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Vous pourrez dans 30 minutes commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, internationale, africaine. Tous les sujets nous intéressent, donc où que vous soyez à travers le monde, appelez-nous, rejoignez-nous et lancez le débat en direct évidemment sur l'antenne d'RFI. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission, des sujets peut-être qu'on n'a peut-être pas du tout abordés sur l'antenne d'RFI. En tout cas, vous êtes les bienvenus. L'antenne vous appartient. Je vois sous mon petit écran des réactions concernant notamment la libération de Karim Watt. C'était il y a une semaine, mais vous êtes toujours aussi nombreux à souhaiter réagir. La réforme du code pénal au Cameroun. Le retour hier d'exil de quatre personnalités pro-Bagbo en Côte d'Ivoire. Football, là aussi, avec les quarts de finale de l'Euro et notamment la perspective de la rencontre qui va passionner évidemment toute la France. Dimanche, France-Islande, peut-être une qualification pour les demi-finales, en tout cas on l'espère ici, bien évidemment. Bref, la libre antenne dans 30 minutes, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction d'RFI. Nous accueillons Philippe qui nous appelle de Lomé. Bonjour Philippe.
Bonjour Juan.
Vous avez des
questions?
Oui. Oui, non, je disais que vous aviez des questions sur le Brésil.
Absolument. J'ai appris tout récemment que le gouvernement brésilien a transféré des fonds à l'État de Rio en faillite. Comment en est-on arrivé là? Quelles seront les conséquences pour les JO?
Ah, bonne question. C'est vrai que à un peu plus d'un mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, l'État de Rio s'est déclaré en état d'urgence financière, autrement dit en faillite. Elcio Ramalho, bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci
bonjour, Philippe.
De nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service brésilien d'RFI. Pourquoi l'État de Rio est-il en crise? Pourquoi finalement les caisses de l'État local sont vides?
Pour plusieurs raisons, en fait. On va commencer d'abord pour dire que, indépendamment de la réalisation des Jeux paralympiques et olympiques, la situation de l'État de Rio, régional de Rio, c'était toujours dramatique depuis des années, en fait. Il y a deux raisons principales. En fait, la première, c'est la gestion, la mauvaise gestion, en fait, de l'argent public, des finances publiques. Là, tous les économistes, tous les spécialistes en disent. Et la deuxième raison aussi, Rio, l'État de Rio, souffre aussi l'impact de la chute des prix des barils de pétrole. Pourquoi le Rio, c'est l'État en fait le plus important de la production de pétrole?
C'est du pétrole offshore.
Offshore, exactement.
Ouais, effectivement, et donc avec la chute des cours du baril, eh bien c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État. Ça signifie qu'il n'y a aucun lien entre cette crise financière qui secoue l'État de Rio et les Jeux Olympiques. Ce n'est pas à cause des grands travaux qui ont été mis en place pour accueillir tous les athlètes que l'État est en crise.
La situation serait toujours dramatique. Elle, bien évidemment, il faut tenir compte aussi de la crise économique du Brésil depuis des années. En fait, le Brésil est en récession depuis 2 ans, donc ça aggrave encore la situation de l'État de Rio. Sur le budget en fait, consacré aux Jeux, il faut préciser que 60% vient de la ville de Rio, dont le maire Eduardo Paes dit qu'il n'a pas de problème de financement. Mm-hmm. 30% vient de l'État de Rio et le reste du gouvernement fédéral. Donc, bien évidemment, il y a une partie importante consacrée de l'État de Rio à ces Jeux, mais ce n'est pas en fait, cet événement
qui est responsable de la crise financière.
Cette situation dramatique.
Ouais. Alors, Philippe Delomé nous le disait à l'instant, le gouvernement de Rio a demandé au pouvoir central de l'aider financièrement. Hier, la Cour des comptes a donné son feu vert. Ça signifie quoi? Que le gouvernement, l'État fédéral, le président brésilien va débloquer des fonds?
En fait, le gouvernement de Rio ne peut plus s'endetter, en fait. Il est l'État régional en ce moment le plus endetté du Brésil. Donc, il ne peut plus avoir des crédits, demander des crédits aux banques publiques, à n'importe qui, sans l'aval des députés. Donc, du coup, le gouverneur de Rio a passé un accord avec le président Michel Temer pour décréter justement l'état de calamité publique, hein, comme
c'est
on dit
le
au
terme
Brésil.
C'est le terme utilisé, place,
exactement,
oui.
Mais c'est l'état d'émergence économique. Comme ça, le gouvernement peut, par un décret, verser cet argent, 2,9 milliards de reais, donc à peu près 800 millions d'euros. Par contre, la Cour des comptes a voulu savoir comment cet argent va être employé. Mmh. Le gouvernement de Rio voulait que cet argent puisse aussi être utilisé pour financer la ligne de métro pour transporter des touristes et aussi des habitants de Rio vers des parcs olympiques, mais la Cour des comptes a dit non, ça doit être utilisé pour payer les policiers et pour assurer la sécurité de la ville. Il faut juste rappeler que cette semaine, une manifestation des policiers à l'aéroport international de Rio a fait un peu le tour du monde parce qu'ils exhibaient les pancartes « Bienvenue à l'enfer ».
C'était pas une bonne image de Rio. Oui, et en même temps, on les comprend, les policiers, ça fait des mois et des mois qu'ils perçoivent leur salaire avec énormément de retard. La même chose pour les enseignants, pour le personnel hospitalier. Les écoles sont même occupées par les élèves. Les conséquences, en quelques mots, pour les Jeux Olympiques de cette crise financière dans l'État de Rio?
En fait, c'est qu'on va voir après les Jeux, en fait. Hein, les présidents du comité olympique, M. Carlos Nussmann, a dit « tout est prêt ». Les locaux de compétition sont prêts. Mm-hmm. Donc, c'est qu'on peut interpréter comme ça. Sur la télévision, sur les écrans de télévision un peu partout dans le monde, on va voir de beaux jeux, des compétitions, tout va être très beau. Par contre, à l'extérieur, il y a beaucoup de choses encore à finir, à terminer. Là, on va voir moins, mais il y aura bien évidemment des conséquences pour les finances de la ville et aussi pour la finance de l'État de Rio.
Merci beaucoup, Elcio Ramalho. Philippe Allomé, on a répondu à vos questions?
Tout à fait, merci Rafi.
Et merci de votre fidélité. 10h16 ici à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. On va prendre dans un instant une question concernant l'exploit de l'Islande à l'Euro. L'Islande, vous le savez, qui rencontrera la France dimanche prochain. Ce sera au stade Saint-Denis, à vivre évidemment en direct avec Eric Chorin, mais aussi Alejandro Valente, le chef du service des sports d'RFI. Et il est déjà à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan. Ah, vous savez que je m'étais intéressé à l'Islande avant même le début de la compétition. Hein.
Ah, c'est vrai.
Et
vous faites partie des rares, faut dire la vérité, Alejandro, des rares qui disaient, faut suivre quand même cette équipe. Personne ne s'attendait à ce que l'Islande, petite nation du football, se retrouve en quart de finale. Et vous faisiez partie de ceux qui disaient, suivons-les attentivement. Justement, Morlaix, qui nous appelle de Paris, a une question à vous poser, Alejandro Valente. Bonjour Morlaix.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
On vous écoute.
Juan, l'équipe islandaise vient d'éliminer l'Angleterre de l'Euro et affrontera la France le dimanche. Comment expliquer que cette petite nation quasi inconnue parvient à battre les Anglais et quel schéma tactique de la France pour se qualifier face à cette impressionnante équipe islandaise?
Ouais, que doit faire la France pour battre les Islandais? Alejandro Valente, d'abord, comment expliquer que l'Islande ait ridiculisé l'Angleterre, qui, rappelons-le, les Anglais sont les inventeurs du football tout de même?
Oui, mais vous savez, les Anglais, c'est en tant qu'équipe, est beaucoup moins performante que son championnat ne le laisserait parfois supposer. C'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Les Anglais ont toujours du mal à construire des équipes vraiment compétitives pour aller vraiment au bout des grandes compétitions. D'ailleurs, le seul grand trophée qu'ils ont affiché à l'époque moderne, c'est la Coupe du Monde en 1966, c'était chez eux.
Qu'est-ce qui fait que l'Islande soit une bonne équipe aujourd'hui? Quels sont ses atouts?
Bah, disons que c'est une équipe qui déjà a une qualité très importante, c'est de connaître parfaitement ses qualités et ses défauts. Donc ils jouent vraiment en exploitant au mieux ses qualités. Ses qualités, c'est des qualités d'abord physiques, c'est un collectif qui est rodé par le fait que la plupart des joueurs qui composent cette équipe sont ensemble depuis les cadets, les juniors, etc. Mmh. Donc ils sont franchis.
Ils ont grandi ensemble.
Ils ont grandi ensemble. Ils ont réussi ensemble parce que dans des équipes de jeunes, l'Islande a déjà réussi des performances. Et au niveau du pays, il y a eu tout un effort fait autour de la formation des entraîneurs, de la mise en place d'équipements adéquats pour s'entraîner tout au long de l'année, parce que vous savez, en Islande, l'hiver est quand même rude, donc il faut quand même pouvoir travailler également dans des espaces couverts. Donc tout ça, c'est un effort qui a été fait au cours des 10-15 dernières années, et aujourd'hui, les Islandais récoltent les fruits de cet effort.
Ouais. Quelle tactique l'équipe de France va-t-elle devoir adopter pour battre l'Islande? On sait que Didier Deschamps a scruté toutes les rencontres de l'Islande. Il va évidemment briefer ses joueurs concrètement. D'autant que jusqu'à présent, on n'arrive pas trop à comprendre le jeu que veut Didier Deschamps sur le terrain.
Oui, voilà. Disons que je pense que l'Islande a une grande qualité défensive, surtout dans l'axe. C'est-à-dire, il y a une belle charnière centrale, un très bon gardien, un milieu de terrain qui joue bas et qui appuie ses défenseurs. Et c'est une équipe qui ensuite est capable d'organiser des attaques très efficaces et très très percutantes. Ils ont une grande efficacité devant le but, même s'ils tentent peu, ils réussissent souvent. Donc je pense que la France a tout intérêt à essayer d'étirer au maximum cette défense en travaillant beaucoup sur les ailes. Je pense que des joueurs comme Coman ou Martial, à un moment ou à un autre, vont être utiles. Donc il faut éviter de s'engouffrer dans l'axe où les Islandais sont forts. C'est un peu l'erreur qu'ont commis les Anglais, avant eux les Autrichiens par exemple, ou même les Portugais. Donc il faut étirer le jeu, essayer d'avoir de la vitesse, d'avoir des décalages, de surprendre un peu cette défense qui est solide mais qui est parfois un peu lourde.
On verra ça donc dimanche soir avec vous et Eric Chorin sur l'antenne d'RFI France-Islande, à suivre évidemment en direct dès 19h temps universel. Morlaix, on a répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup Juan, merci à toute l'équipe et j'espère que Didier Deschamps est à l'antenne aussi pour écouter ses sages conseils.
Un pronostic Morlaix pour le match France-Islande?
2-0 pour la France.
Ah, ça vous semble comment
Alejandro? Ah bah ça me paraît un très bon résultat.
Je Personne pense que ne les dira le contraire
les
ici.
Les Islandais sont très sympathiques, mais je pense qu'ils ont déjà atteint et même au-delà de leurs objectifs. Donc je pense que maintenant, c'est au tour de la France de montrer qu'elle peut aller loin.
Allez, soyons un peu chauvins. Merci Alejandro. 10h22 à Paris, la libre antenne dans 20 minutes. Vous nous rejoignez. Vous souhaitez d'ailleurs nous parler de la prestation de l'équipe de France. Vous souhaitez nous livrer vos pronostics pour le match de dimanche. Vous êtes évidemment les bienvenus. 33 9 693 693 70. Nous accueillons Baba qui nous appelle de Maroua, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Baba.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous avez une question sur les conséquences du Brexit?
Oui, c'est exact. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences du Brexit pour les étudiants européens dans le cadre du programme Erasmus et pour les étudiants africains dans le cadre du partenariat Union européenne-Afrique.
Alors, Erasmus est incontestablement l'un des projets européens les plus populaires auprès des jeunes européens, puisqu'il s'agit d'un programme d'échange universitaire qui permet aux étudiants de l'Union européenne de bénéficier d'une bourse pour aller étudier un an dans un autre pays membre. Bonjour Jacques Combi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Commission des relations internationales et européennes de la Conférence des présidents d'université. Faut dire que depuis la création d'Erasmus, 3 millions de jeunes européens ont profité de ce programme. Est-il menacé par la sortie du Royaume-Uni?
Alors que le projet soit en lui menacé, non, je ne pense pas. Tout d'abord, il faut être prudent. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On a 2 ans, je dirais, d'incertitude. Les 2 ans qui vont correspondre à l'ensemble des accords qui pourront être passés et négociés avec la Grande-Bretagne. Peut-être pas que... peut-être l'Angleterre. On ne sait pas ce qui va se passer aussi en Angleterre. On voit bien que le schéma politique est compliqué. Mais on peut quand même faire quelques supputations, si vous voulez.
Bien sûr, on vous écoute.
Voilà, mais vraiment, on est quand même dans les supputations. Ça ne peut pas se traiter de manière individuelle. C'est forcément une question globale. Et de cela vont dépendre, et les conséquences seront sans doute incontournables sur les relations universitaires en Europe et pas que sur Erasmus, bien sûr. Donc sur Erasmus, à court terme, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets. Je pense que jusqu'à la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, sortie au sens concret des accords évoqués, dans les 2 ans, le délai, on ne sait pas trop. On voit bien que la France voudrait que ça soit peut-être un peu plus vite, l'Allemagne un peu moins vite. Je pense que les actions et le budget du programme Erasmus devraient probablement être maintenus en l'état, ou en tous les cas peu changés. changer, que sur 2 ans, je ne vois pas un effet très immédiat. Encore une fois, sauf si ça va très vite politiquement.
Mais bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'aller très vite. On le voit depuis le sommet cette semaine à Bruxelles des différents chefs d'État de l'Union européenne. Il y a une volonté d'aller vite. Mais après les 2 ans, une fois que le divorce sera consommé, c'est un peu ça que veut savoir notre auditrice.
Alors, après 2018, je dirais que la fin de l'éligibilité à Erasmus plus des publics britanniques, si je puis dire, jeunes et adultes d'ailleurs, hein, qui bénéficie de ces bourses, eh bien, on peut considérer que le Royaume-Uni ne bénéficiera plus de toutes les formes d'action offertes par Erasmus. Ça me paraît clair, Erasmus plus, mobilité, partenariat, soutien aux réformes éducatives. Alors là encore, est-ce qu'il y aura un cadre de négociation spécifique visant à ne pas trop, provoquer de troubles sur les échanges universitaires et sur la mobilité étudiante et encore une fois des adultes, on peut se demander, mais il y aura un effet, ça me paraît incontournable. Oui, je vous en prie.
Non, je voulais dire que évidemment ce serait dommage pour les étudiants européens, puisque le Royaume-Uni est tout de même la 4e destination la plus populaire des étudiants européens. 25 000 étudiants se rendent chaque année au Royaume-Uni pour suivre leurs études. Pour le moment, les étudiants n'ont pas besoin de visa pour aller au Royaume-Uni. Que se passera-t-il une fois que le divorce sera consommé? Est-ce qu'il faudra un visa? Est-ce que ce sera beaucoup plus compliqué? Est-ce que vous pensez que le Brexit peut dissuader les étudiants européens à se rendre au Royaume-Uni?
Je pense que ça va dépendre. D'abord, les étudiants européens aiment aller en Grande-Bretagne pour plein de raisons. Bien sûr pour leur formation, parce qu'elles sont excellentes en Grande-Bretagne, mais aussi pour le pays en lui-même. Il y a toujours eu une attirance de la jeunesse vers la Grande-Bretagne, pour plein de raisons. On va pas reparler des Beatles, c'est de la mode, etc. Donc il y a une attirance naturelle. Ensuite, ça va dépendre aussi de ce que vont faire les universités. Au-delà de programmes européens, il y a des liens bilatéraux très forts entre la France, l'Allemagne, des universités et des universités anglaises. Dès lors que ces liens bilatéraux ne seront pas interférents avec des réglementations européennes, j'ai même tendance à penser que nous allons, même nous, Français, faire des efforts, parce qu'on se rend bien compte que ça va être une gêne, cette sortie des Britanniques. Donc ça peut même accroître une forme de relation bilatérale, voire trilatérale, une Française, une Allemande, et une Anglaise ou une Écossaise, etc.
Donc après, il faudra signer...
Sur la question des visas, si vous permettez... on en parle, certains le disent, je vois pas quand même un visa entre la France et l'Angleterre. Alors si on en arrive là, c'est que politiquement, il y a eu vraiment des négociations très très compliquées. Après, avec d'autres pays extérieurs à l'Angleterre et qui fonctionnent dans le cadre européen, ça je mesure moins bien. Enfin, s'il faut aller un visa pour des étudiants français en Angleterre, c'est que vraiment, on sera dans une grande catastrophe européenne.
Et Baba, qui est toujours en ligne du Cameroun, nous demandait également quelles conséquences pour les étudiants africains qui étudient au Royaume-Uni dans le cadre des accords universitaires Europe-Afrique.
J'aurais de la peine à répondre à Baba, justement, au regard de ce qu'on vient d'évoquer, de ces négociations. J'ai quand même tendance à penser que l'université, de manière générale, et les relations universitaires, si elles sont concernées évidemment par les contextes politiques, n'empêchent pas que des universitaires se parlent. Alors encore une fois, c'est pas nous qui faisons les visas, et parfois ça nous gêne, mais il est hors de question, côté français comme côté britannique, de penser à faire des restrictions particulières, parce que l'Angleterre est sortie de l'Europe. Encore une fois, si la politique, les États et les réglementations européennes nous gênent, nous serons gênés incontestablement. Moi je suis convaincu au contraire qu'il faut qu'on se rencontre très vite. D'ailleurs, ce que font déjà les Allemands, c'est ce que nous voulons faire, nos universités françaises, pour déjà anticiper, trouver des solutions, et bien sûr avec tous les pays concernés, et ô combien l'Afrique, c'est une évidence déjà pour les universités françaises.
Bien. Merci Jacques Combi de nous avoir accordé quelques minutes ce matin, et d'avoir répondu donc à Baba de Marois. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des Relations Internationales et Européennes de la Conférence des Présidents d'Université. D'autres questions à la rédaction. Lundi, je m'excuse d'ailleurs au passage pour les auditeurs qui attendaient au standard et qui pensaient pouvoir poser leurs questions ce matin. Voilà, de temps en temps, on prend du temps, et c'est aussi ça le principe de l'émission, prendre le temps de vous expliquer l'actualité, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera évidemment lundi. 33 9 693 693 70, la libre antenne dans 10 minutes. Et il me reste 20 secondes pour vous annoncer que jeudi prochain, puisqu'on parlait de football tout à l'heure avec Alejandro Falente, eh bien, jeudi prochain, à l'occasion de la 2e demi-finale de l'Euro, eh bien, RFI sera à Marseille. Appel sur l'actualité, évidemment, fait partie du voyage et ce sera l'occasion avec nos invités sur place et les auditeurs de Marseille. J'espère qu'ils seront nombreux pour parler. On parlera football, on parlera de l'Euro et on parlera aussi, évidemment, de l'Olympique de Marseille.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent. 7 milliards de voisins.